il est l'heure de dérouler le tapis rouge, d'enfiler son plus beau costard cravate et sa plus belle robe. C'est l'heure des Oscars 2024. Et pour parler de cet événement sacré, je suis accompagné de Vanessa qui va co-animer cette émission avec moi. Bonjour Vanessa.
Bonjour Clément.
Merci, je suis tellement content d'être avec toi pour parler de ça parce qu'il y a tellement de films dont on a déjà parlé, on va revenir dessus et on va pas perdre de temps. Commençons avec la première catégorie, tu l'as devant les yeux, c'est laquelle ?
La première catégorie, attention, eh bien c'est les effets visuels.
Eh bien, c'est parti. Dis-nous, quels sont les films dans les effets visuels ?
Alors, The Creator, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie 3, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 et Napoléon.
Vous noterez l'accent toulousain de Vanessa sur tous les mots en anglais.
Reckoning. Je m'en moque, je suis à Toulouse, donc je parle toulousain.
Tout à fait. Commençons donc avec The Creator.
Ouais. The Creator.
Film de Gareth Edwards avec un budget assez petit et des effets spéciaux extraordinaires. Je trouve que c'est une claque.
Fabuleux,
c'est une claque de science-fiction. Pour remettre un peu dans le contexte, Gareth Edwards, c'est celui qui avait réalisé le Godzilla en 2014 et qui a réalisé le spin-off de Star Wars Rogue One, qui fait partie, je pense, pour beaucoup de gens, c'est le meilleur Star Wars de l'ère Disney. Voilà, je l'ai dit. Et qu'est-ce que tu avais pensé de The Creator, toi ?
Ah, moi, j'avais adoré The Creators. Je trouve que c'était vraiment super bien fait avec l'intelligence artificielle. Et
c'est
puis aussi,
ouais.
Le fait que ils n'étaient pas si méchants que ça.
Ouais, tout à
c'était
fait.
C'était très, très bien fait sur ce côté-là de montrer que c'était les humains, en fait, qui étaient les fautifs.
Et comme d'habitude. Mais je pense que pour un Oscar des meilleurs effets spéciaux, il mérite quand même. Il mérite complètement sa place.
Ah, complètement.
Qu'on continue avec la suite. Quel est le film d'après, rappelle-moi ?
Godzilla Minus One.
Ah ouais, alors là, c'est un autre cas d'école.
Là
aussi, petit budget et un résultat digne d'un blockbuster hollywoodien, sauf que c'est pas Hollywood qui l'a fait et je pense qu'ils peuvent en être fiers. Ce qui a été très difficile, il faut aussi le remettre dans le contexte, c'est que Minus One est sorti l'année dernière en France sur une sortie limitée de 2 jours.
Ouais, deux jours.
Deux jours.
C'est ça, 2 jours, le week-end.
Et ça a tellement fait parler, il n'y a jamais eu un tel bouche à oreille qu'on s'est retrouvé en janvier avec une ressortie d'une semaine. Ce qui est quand même assez inexplicable, quand même, cette histoire.
On ne s'y attendait pas du tout.
On ne s'y attendait pas du tout. Un film Godzilla qui ne fait même pas
surprise.
Partie. Surprise. Ouais, de cette timeline qu'on suit depuis des années avec les Millie Bobby Brown, tout ça. Et là, on se retrouve avec un film qui envoie. Moi, personnellement, je l'ai vu en salle Dolby au Pathé Wilson et ça a été une.
Ah, moi, je l'ai vu en IMAX.
Tu l'as vu en IMAX ?
Ouais. Ah, ouais. Alors là aussi, ça envoie.
Ça envoie du lourd. Ah, ouais, non, mais complètement. Ah, finalement, tu vois, regarde, je suis en train de regretter. Je dirais quand même plus Godzilla que The Creator pour moi.
Je vais passer au troisième. Alors,
vas-y.
Les Gardiens de la Galaxie 3.
Je te laisse en parler parce que je ne l'ai pas vu.
Oh non, c'est vrai ? T'as pas vu ?
J'aurais aimé. Mais on m'a dit que c'était très émouvant, qu'il y avait
très émouvant sur
Rocket, mais celui-là,
hyper
faut que
impressionnant. Et je trouve que les effets spéciaux sont très très bien faits. Pardon, les effets visuels. Parce
les effets
que c'est
visuels.
Pas la même chose que les effets spéciaux. Ils sont très bien faits et très bien amenés. Et on voit vraiment ce côté famille qui a été mis en place par les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment très fort.
Je ne l'ai pas vu, mais moi, je ne sais pas si je donnerais la récompense aux Gardiens de la Galaxie pour plusieurs raisons. C'est le troisième volet d'une saga qui a déjà gagné beaucoup d'argent, qui est sous Disney, qui ont l'argent. Je veux dire, c'est quand même plus un Godzilla qui mérite, quoi, comme un film comme ça.
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que quand tu as vu le film et que tu vois le boulot qui a été fait par ceux qui font les effets visuels, franchement...
Ça envoie.
Ouais, ça envoie. Et puis avec les vaisseaux, le personnage aussi assez glauque, le méchant super invincible. Voilà, moi je pense que ça envoie beaucoup. Et puis avec les ratons, les petits ratons, c'est trop fort. Je trouve qu'il y a vraiment... Le seul bémol, c'est peut-être le méchant. Le grand, grand méchant qui a fait toute cette industrie et tout. C'est peut-être ça le seul bémol. Après, je trouve que les effets visuels sont bien faits. Mais est-ce qu'il doit avoir le prix ? Je ne sais pas.
Celui d'après, c'est Mission Impossible.
Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Là aussi.
Qui ne s'appelle plus partie 1 d'ailleurs, maintenant.
Non,
c'est fini.
Mais non, c'est fini.
c'est n'importe quoi.
Mais c'est vrai que là aussi, il y a des effets incroyables, des cascades. Phénoménal,
ouais.
Et le fait, alors on le voit sauter dans le vide,
mais il
et
a
après...
vraiment fait ça.
Oui, mais là on ajoute on ajoute le train, on ajoute tout ce qu'il y a, et comme il tombe dessus. Donc il y a vraiment du lourd aussi dans le casino. Pareil, les effets sont très forts, quoi.
Non, mais c'est, j'ai vu pas mal d'extraits des making-of de ce film, et c'est vrai que Tom Cruise, 61 ans, il envoie, quoi. Il a même pas besoin de doublure cascade, il est extraordinaire. Et pour conclure sur cette catégorie, Napoléon de Ridley Scott. J'ai pas du tout aimé ce film, vraiment pas. Et je trouve que les effets spéciaux, en fait, ils sont présents que dans les séquences de bataille qui sont écourtées avant l'action, qui durent seulement
que quelques... Le problème, c'est qu'il devait durer 4 heures, le film. 4h07, et il a été coupé en deux.
Et on attend toujours la version longue sur Apple TV, qui n'arrive pas. Et
non, on a la version courte.
Moi, je ne comprends pas, parce que du coup, ce film est nominé aux Oscars avec sa version cinéma, et je trouve qu'elle ne lui rend pas justice. Donc, c'est vraiment le film qui mérite le moins dans cette catégorie, selon moi, bien sûr.
Moi, je verrais bien primer The Creator.
Et pour moi, Godzilla Minus One. Mm. Voilà. Donc, on est plus ou moins d'accord, mais c'est vrai que j'aurais choisi Creator en deuxième si j'avais eu le choix. Voilà.
Plus ou moins d'accord, ouais. On va passer pour la nomination pour la meilleure chanson originale.
Alors,
on avait bataillé l'année dernière, et là, It's Never Went Away dans American Symphony. I'm Just Ken dans Barbie.
Ouais.
What Was I Made For dans Barbie. The Far Inside, désolé pour l'accent, dans Flaming Out. Et, ouais, je ne vais pas le sortir celui-là, Warzer Z dans Killer of the Flower Woman.
Warzer Z.
Non, c'est écrit Warzer Z. Regarde, Dieu, t'es moqué de moi.
Non, j'aurais pas fait mieux. C'est
dans Killer of the Flower Moon.
Voilà, on est à Toulouse, Radio Esprit Occitanie, Warzone. Pour moi, c'est I'm Just Ken. Je vais aller assez vite. Je trouvais la chanson drôle, le clip visuellement pour moi, c'était ma séquence préférée dans Barbie. C'était beau. Et j'aurais même, tu vois, regarde, je remets une couche sur Barbie. Si ça avait été une comédie musicale, j'aurais adoré deux fois plus parce que je trouve qu'en termes de séquence musicale, ils se démerdent super bien dans Barbie là. Ken, c'est drôle, c'est bien fait, je sais pas, je trouve que c'était la meilleure chanson de l'année. Donc voilà, moi je vais assez vite sur cette catégorie. Pour moi,
non, mais je suis d'accord avec toi. I'm Just Ken, franchement, il est vraiment super bien, et puis très bien interprété. Il y a un très beau clip.
Mais trop beau.
Avec un côté Grease.
C'est vrai.
À fond.
C'est vrai, avec les t-shirts noirs, les pantalons noirs et tout. Mais je trouve, en plus, c'est que je ne suis pas un grand fan de Ryan Gosling, et je trouve que là, vraiment, il se donne à fond, il chante, il est expressif. Enfin, je trouve qu'il a quand même quelque chose qui le fait sortir de sa zone de confort. Donc, pour ça, I'm Just Ken, je pousse à fond, et je pense qu'il va avoir l'Oscar de la meilleure chanson.
Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas lutter. Hein. Franchement, elle est vraiment bien, cette chanson. Et puis... j'ai très très envie de la voir chanter aux Oscars.
Ah, oh, t'imagines ?
Ah bah normalement oui, il doit.
Non mais t'imagines s'ils mettent toute la mise en scène comme dans Barbie avec tout le monde. Ah, j'aimerais
trop. Ce serait excellent.
J'ai trop trop hâte.
On reste dans la musique avec la nomination pour la meilleure musique de film.
D'accord, bande originale donc.
Eh oui, tout à fait. American Fiction, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Killer of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. Là, ça se corse.
Est-ce que je peux être honnête ? Alors, bon, mon cœur va dire Indiana Jones parce que c'est Monsieur John Williams.
Oui.
Il a 92 ans et je trouve ça trop bien ce qu'il fait. Mais Pauvre créature a vraiment une bande originale très originale pour le coup.
Complètement psychédélique. Moi, j'adore.
Ouais, donc, je pense... En fait, mon cœur voudrait Indiana Jones, mais je pense que, et ça serait mérité, que le Pauvre créature ait le prix.
De Jaskin Fendrix.
Toujours compliqué.
Oh ouais, j'en ai marre.
Déjà, le réalisateur
s'appelle... John Williams, c'était cool, mais...
Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Hein.
C'est ça.
Le truc qui s'arrête pas. Donc, on est d'accord sur le Pauvre créature ?
Ah ouais, Pauvre créature à 100%. Je trouve que c'est vraiment bien amené. Aussi bien dans les trucs où on est en voyeur. Parce qu'avec ce petit œillet, là, moi, j'adore ça, quoi.
Qu'on appelle, dans le jargon YouTube, un fish eye, un œil de poisson.
C'est ça.
On a cette vision-là pendant tout le film. Et très beau film, très bon film et une musique excellente. Donc il mérite tous les prix. Et j'espère Emma Stone, meilleure actrice. On verra.
Ça va être compliqué. Après, nous passons aux nominations pour le meilleur film documentaire. Est-ce que tu en as vu ?
Alors, dis-moi, quels sont les films en question ?
Alors, on a Bobby Wan, The Eternal Memory, Les Filles d'Olpha, mm-hmm. To Kill a Tiger et 20 Days in Mariupol.
Ah, et voilà. J'en ai vu aucun.
Alors, moi, j'en ai vu 4.
Ah,
et
bah,
je vais préférer, mais alors tout de suite, sans... Je vais pas chercher midi à 14h, ce sera 20 Days in Mariupol.
Pourquoi ?
Il est vraiment très fort par rapport à la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Tous les témoignages qui ont été compilés. Et franchement, très poignant. Tu ressors de là, t'es,
ouais.
T'es HS, quoi. Tu te dis, mon Dieu, ça se passe à quelques milliers de kilomètres de nous. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas très, très loin, en somme, quoi. Ça pourrait se passer en France, en fait.
D'accord.
Ça pourrait, voilà, il pourrait y avoir, comme pendant la Seconde Guerre mondiale ou autre, un pays voisin qui se met à vouloir retenir le pouvoir. Et voilà, ça fait quand même... c'est hallucinant parce que cette guerre, on n'en parle plus. Mm-hmm. Et en fait, ils sont toujours dedans. Ils sont toujours englués dans cette guerre. Ils sont toujours pris. Il y a toujours ces hommes et ces femmes qui se battent sur leur sol en Ukraine. D'autres qui se sont enfuis et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Certains ont commencé à rentrer et sont repartis. Et on voit toute cette horreur, toute cette atrocité. On voit un témoignage aussi d'une femme qui a été enlevée par des soldats russes. Ils lui ont fait des choses atroces. Et ouais, c'est très, très, très dur, très poignant. Et franchement, mon cœur va sur 20 Days in Mariupol.
Eh bien, écoute, on surveillera ça de près pendant la cérémonie et je penserai à toi si ce documentaire remporte le prix. Quelle est la catégorie suivante, Vanessa ?
Nomination pour le meilleur film international. Ah là 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 là. L'Allemagne, La Salle des Profs, l'Italie, Moi Capitaine, Japon, Perfect Days, Espagne, Society of the Snow, Royaume-Uni, La Zone d'intérêt.
Alors, le Society of the Snow, c'est le Cercle des Neiges qui est sorti sur Netflix, j'imagine,
c'est
de
ça.
Juan Antonio Bayona.
Yes.
Alors, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien. Je me le suis mis de côté, celui-là, parce que j'ai très, très hâte de le voir, mais j'arrive pas à trouver le bon moment pour regarder un film sur des personnes qui essayent de survivre.
Excellent,
et qui vont
très
manger.
Fort, mais très dur.
Ouais, c'est assez compliqué. Par contre, j'ai vu La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et alors, c'est très particulier parce que c'est un film qui est... Mais, extrêmement original et je pense vraiment que c'est lui qui va tout remporter. C'est une expérience de cinéma très très forte. On n'en ressort pas indemne. Déjà, on en avait parlé en off, Vanessa. On avait fait le comparatif avec Le Garçon Pyjama Rayé,
oui,
qui avait une thématique assez proche et c'est un film que je porte dans mon cœur et qui est difficile à regarder. Et on se le disait qu'on arrête souvent avant la fin parce que c'est beaucoup trop dur. Et là, pareil, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, en fait, ça a une particularité, c'est que on voit tout de l'autre côté de la barrière. C'est pas du tout. C'est pas un film voyeuriste.
On n'entend que les bruits.
On n'entend que les bruits. Donc il y a un travail du son, il y a un travail du cadre, il y a un travail du hors-champ. C'est-à-dire qu'on ne suit même pas les protagonistes parce qu'on ne va pas s'attacher à des nazis, en fait, du coup. Donc on filme tout de loin, on filme tout dans un couloir. Sauf la famille. C'est comme très étrange.
On les suit de près et avec des caméras qui sont cachées dans la maison. Ils ne savaient pas. Ouais. Où étaient les caméras, les acteurs ? C'est assez fou, ça.
Ah ouais, non, c'est très perturbant. Et il est encore en salle, donc si vous avez la possibilité de le voir, allez le voir en salle parce que c'est un film d'enfermement. C'est vraiment très, très oppressant.
Ouais, le son est important.
Et ouais, c'est très, très important. Donc je pense que, de toute façon, c'est un film qui visiblement fait l'unanimité. Tout le monde l'adore. Et j'imagine que c'est lui qui va remporter l'Oscar.
Je pense que c'est un film quoi qu'il faut pas laisser de côté quand même Moi Capitaine qui est très fort
que j'ai pas vu
très très fort et voilà ces petits jeunes qui essayent de survivre mm-hmm. d'un autre côté des migrants c'est très bien fait très très bien amené ce risque avec la mer le risque de vivre ou de mourir voilà les interprétations sont bluffantes. Mon cœur balance entre les deux. C'est vrai que La Zone d'intérêt, il y a beaucoup plus avec ce côté Seconde Guerre mondiale, ce côté qu'on ne montre pas, ces Allemands qui vivent juste à côté du camp d'Auschwitz. Et de l'autre côté, voilà, la misère de deux frères qui veulent franchir la mer pour pouvoir être sauvés, en quelque sorte.
Bien sûr. Bah écoute, je regarderai ce film-là. Il doit être sur MyCanal, quelque chose comme ça, non ?
Non, pas encore arrivé. Il est toujours au cinéma.
Toujours au cinéma, bah écoute.
Mais toujours au cinéma.
J'irai me faire une petite séance pour moi, Capitaine.
Allez, nomination pour le meilleur film d'animation que t'as pas vu.
Je crois qu'il y a Spider-Man dedans.
Il y a Le Garçon et le Héron.
Ouais.
Élémentaire.
Oui.
Nimona.
Oui.
Mon ami robot.
Oui.
Et Spider-Man Across the Spider-Verse.
C'est pas mal. Across.
Across. Et je m'améliore au fur et à mesure.
Non,
hein.
C'est très bien.
Je prends des cours.
À la fin de l'émission, elle est bilingue, tu sais.
Non. J'aimerais bien. Hein. Ça m'aiderait bien sur certains trucs.
Non, bah, moi, j'ai vu le Spider-Man et effectivement, lui aussi, fait l'unanimité parce qu'il est... Dans son imagerie, il est très psychédélique, c'est très pop, c'est très coloré, ça part dans tous les sens, ça se perd entre la bande dessinée, la 3D, l'animation, le dessin. En plus, dans celui-là, il mélange des prises de vue réelles avec des acteurs. On revoit pendant un instant Andrew Garfield, Tobey Maguire, tout ça. Donc, il y a un vrai mélange de genres dans un même film d'animation. Et lui, alors c'est marrant, est-ce que c'est le meilleur film d'animation? Je ne sais pas, mais il aurait mérité peut-être un Oscar des meilleurs effets spéciaux, effets visuels, parce qu'il y a un vrai travail... Il y a un vrai travail avec ça, mais...
Alors, l'animation, quoi.
Mais c'est de l'animation avec des effets...
C'est bizarre.
Avec... C'est étrange, parce qu'il y a des prises de vue réelles aussi dedans. Enfin, donc, on s'y perd un peu. C'est un objet hybride, quand même, ce Spider-Man, puisque il pourrait être dans toutes les catégories, j'ai l'impression. Donc, vu que c'est le seul que j'ai vu, je vais dire Spider-Man.
Alors, moi, ben, j'en ai vu 4. 1, 2, 3, 4... Non, 5, pardon. 5. Et ben, moi, c'est Mon ami robot, qui est vraiment très, très beau, une amitié entre un robot et un chien. Il n'y a pas de paroles, juste des onomatopées, des petits bruits, des petits cris. Et c'est vraiment très vivant. C'est voilà, un petit chien qui veut plus être seul. Donc, il prend un robot et malheureusement, bah, le robot, il va se baigner. Et un robot qui va se baigner, ça se coince. Donc, il faut de l'huile et il n'a pas d'huile. Et il doit laisser le robot. Et le robot doit vivre sa vie sur cette plage. Il ne peut pas le récupérer. Et il y a un an qui va se passer jusqu'à l'ouverture de la plage. Et chacun va vivre des événements des deux côtés. Chacun va... Et sans oublier l'autre. Et je trouve que c'est très, très beau. On voit vraiment ce côté amitié. Et cette chute qu'on n'attend pas, mais qui est aussi très belle et faite d'espoir.
Eh bien, écoute, tu me l'as super bien vendu. J'avais vu l'affiche passer. Ça, j'ai cru par un instant qu'il s'agissait d'un petit film d'animation du dimanche matin pour les enfants.
Non.
Et visiblement,
non, pas du tout. Non.
Les adultes
très fort.
Se régalent aussi, d'accord.
Ah oui, aussi bien les enfants que les adultes. Et je pense même qu'il y a une double lecture pour les adultes.
C'est chouette.
Sur l'abandon, sur le fait d'une amitié qui...
Et comment tu as trouvé l'animation dessus?
Très belle.
Très belle, ok.
Très belle, très bien faite. Il y a vraiment du beau travail, ouais.
Bah écoute, on suit ça de près aussi. Quelle est la catégorie suivante?
Eh bien, la catégorie suivante, attention, on se rapproche, c'est la nomination pour le meilleur scénario original. Avec Anatomie d'une chute, Winter Break, Maestro, Mid-December et Past Life.
Alors, je n'ai pas vu Past Life et Anatomie d'une chute, mais j'ai vu tous les autres. Alors, on va commencer quand même par Anatomie d'une chute. Je n'ai pas vu ce film, mais je sens qu'il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose.
Très fort.
Partout dans le monde.
Il est incroyable, ce film. Il est très, très bien scénarisé, très fluide. Il y a vraiment... les personnages ont vraiment leur action très propre. Le personnage de Sandra Hüller est incroyable. Elle fait tout passer dedans, toutes les émotions. Elle est aussi bien, on se pose la question tout le long du film, est-ce qu'elle est coupable ou innocente? Et ça, c'est très fort de nous faire emmener ça. Swan Harlow aussi, son rôle est très, 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 très bien fait. Il n'y a pas de secret. Hein. Les deux ont tenu un César, le César du meilleur second rôle pour Swan Harlow et le César de la meilleure actrice pour Sandra Hüller. Voilà, il y a aussi scénario pour le César du meilleur scénario pour Justine Triet et Arthur Harari. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, on suit tout. Les personnages sont intéressants. On est amené aussi au tribunal. La partie du tribunal est très, très forte aussi. Voilà, c'est découpé entre la maison, le tribunal et puis cette partie un peu floue où l'enfant est aussi très important. Son témoignage.
J'ai beaucoup entendu parler d'une scène de dispute dans le film qui a fait beaucoup parler.
Oui. Il y a... Oui. Alors c'est expliqué au tribunal en fait. C'est
D'accord.
un flashback.
Ok.
On retrouve un flashback et alors on voit des petites images, mais on entend au début, c'est un enregistrement.
D'accord.
Voilà, ça arrive comme ça, et hop, on voit des choses. Mais oui, il y en a qui se sont fait leur propre idée par rapport à cet enregistrement.
C'est, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression que chaque année, lors des cérémonies qui se suivent, que ce soit les Césars, que ce soit les Oscars, il y a toujours le préféré, le film qui revient à chaque fois. Et j'ai vraiment l'impression cette année que Anatomie d'une chute, c'est celui qui va tout rafler. Donc, on va parler des autres films, mais je pense, sans avoir vu ce film, que c'est Anatomie d'une chute qui va encore tout rafler. Il a l'air d'être sur une lancée.
Anatomie d'une chute est très, très bien parti. C'est vrai, moi, j'ai aussi un vrai coup de cœur pour Past Life,
ouais,
qui est vraiment très bien fait. Une histoire d'amour incroyable, une histoire d'amitié, un triangle amoureux, un respect total de Céline Song pour ses personnages, pour son histoire et aussi pour l'amour et l'amitié qu'elle met en place.
Ouais, c'est un film qui est sorti aussi en fin d'année dernière. Malheureusement, j'ai...
Et puis sur 30 ans.
Oui, et puis sur 30 ans. Ouais,
sur
c'est
30 ans, c'est
une fresque, une fresque de vie.
Très,
ouais,
très fort.
Et non, mais c'est deux films, mais très sincèrement, je le dis...
Toujours au cinéma, Past Life. Hein,
Past Life, si toujours au cinéma. Bah écoute, voilà, ça y est, ma séance est bloquée.
Et Anatomie d'une chute, il repasse aussi
à
l'ABC, il est au cinéma.
Non,
je fais la pub.
il fait vraiment son bruit. Les films qu'il y a au milieu, il y avait Winter Break.
Oui, tout à fait. Excellent aussi, Winter Break.
Moi, qui fait partie de mes films préférés de l'année dernière.
Très drôle.
Très drôle et très simple. En fait, moi, ce qui m'a plu dans Winter Break, c'est déjà sur son esthétisme. On a l'impression de voir un petit film des années 70, 80. C'est un feel good. Vraiment, c'est le film. Tu le regardes à la maison avec un chocolat chaud. Il neige dehors. Il y a un film. C'est un film confort, en fait. C'est un film moi, j'ai toujours eu un attrait pour les films qui sont professeur-élève. Un truc de passation un peu comme le cercle des poètes disparus. Là, il y a un peu ça, ce pion qui doit surveiller pendant les vacances de Noël une bande de jeunes. Et il y a une femme, une cantinière qui se retrouve là, espèce de triangle improbable. Et voilà, cette incompatibilité de personnes va se retrouver à être compatible contre toute attente et on va passer un très très bon moment.
Moi, je trouve que... puis les fragilités aussi de tous, surtout du professeur. C'est très fort, son côté qu'il n'a pas réussi, qu'il essaye de se cacher et l'aide de cet élève qui va lui donner un petit coup de pouce quand il rencontre un autre, ancien élève.
Et alors, c'est un petit spoiler, mais qui n'a pas un grand impact, mais moi, qui m'a énormément touché dans le film, c'est qu'on pointe le doigt son handicap à un moment donné concernant son œil. Et vers la fin du film, il lui révèle quel est l'œil qu'il faut regarder. Et ça, j'ai trouvé que c'était un moment mais pur comme « Écoute, tu as ma confiance, je t'aime, donc je te donne la réponse que tu voulais au début du film. » Et voilà, il y a un truc, c'est un film humain avant tout, c'est un film sur les relations.
Moi, ça m'a fait penser à, quand je le vois, au Cercle des Poètes Disparus.
Ouais, mais c'est exactement ça. Mais moi, j'aime ces films-là, ces films où c'est des générations différentes qui communiquent et qui voilà, vont se trouver des points communs et un certain attrait. Donc, Winter Break, c'est vraiment la surprise qu'on n'attendait pas parce que je trouve que la fille paye pas de mine, en fait. Il n'y a pas quelque chose de transcendant. Je ne me suis pas dit « Waouh, Winter Break, c'est le film de fin d'année. » J'y suis allé un peu sans voir la bande-annonce, en me disant pourquoi pas, et ça, j'ai bien fait.
Mais surtout l'affiche, quoi, avec la boule cassée, tu te dis, c'est quoi
C'est une comédie de Noël, burlesque, mais non, pas du tout. En fait, c'est un très beau film. C'est un très très beau film, comme on n'en fait plus aujourd'hui, et j'ai adoré Winter Break. Il y avait quoi d'autre dans
Maestro.
Maestro de Bradley Cooper et avec Bradley Cooper.
Que je n'ai pas vu.
Et Carmine Lenguet. Moi, je l'ai
qui
vu.
Qui est sur Netflix, c'est
qui
ça
est sorti sur Netflix. Alors là, c'est très particulier parce que, alors, il faut savoir, j'ai adoré son film précédent, Star is Born, qu'il avait réalisé avec Lady Gaga. Et là, en fait, dans Maestro, c'est très beau, c'est très bien fait. Mais malheureusement, il n'y a pas un côté opportuniste, mais un côté où on sent que Bradley Cooper, il va absolument avoir l'Oscar. Tout dans le jeu est exagéré, il y va à fond, il faut que ça soit le meilleur film, il faut que ça soit le plus beau film, il faut que je joue très bien, mais en fait, à force de vouloir faire très bien, il fait trop bien, et ça en devient très... comment dire, c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Maestro, c'est un film qui a un petit peu poussé le bouchon un peu loin, Maurice. Donc voilà.
Et puis, on a May December.
Que j'ai pas du tout aimé, May December.
Elle est très spéciale, hein. May December avec le duo Nathalie Portman, Julianne Moore.
Deux actrices extraordinaires, moi, que j'adore en plus de base. Et c'est pour ça que
j'ai trouvé très toxique ce film. J'ai malsain, j'ai eu du mal à regarder des choses. La composition du personnage de Nathalie Portman est très waouh.
Alors, ce qui est très surprenant, c'est que je trouve que sur le papier, sur le synopsis, c'était assez fluide, c'était assez clair. C'est une actrice qui va s'inspirer de la vie d'une femme qu'elle va rencontrer.
Ouais, qui va fusionner, mais là, elle fusionne beaucoup trop.
Elle fusionne beaucoup trop. Et le problème, c'est que sur le synopsis, c'est très clair quand on regarde le film. C'est décousu, ça part dans tous les sens et on se dit attends mais elle est là pourquoi, je comprends plus rien. Et à vouloir faire un film bordélique, bah en fait ça a rendu l'ensemble assez tiède et moi je ressors pas transcendé, j'ai pas spécialement envie de le revoir, donc je pense pas que ce film là va remporter quand même quelque chose, même si je pense qu'il a plu. C'est un film qui divise quand même pas mal.
Oui, et puis c'est quand même une histoire tirée d'une histoire vraie, donc c'est un peu compliqué, hein.
Ouais, c'est compliqué, mais ils auraient pu, je pense, plus simplifier la narration.
Donc toi, c'est pour toi, c'est qui?
Alors mon coup de cœur, c'est Winter Break, mais je pense que c'est Anatomie d'une chute. Ça a l'air d'être déjà préparé d'avance. J'ai vraiment
c'est pareil, moi c'est Past Life, mon coup de cœur, et ouais. Je pense que ce sera Anatomie d'une chute parce que je l'ai revu une deuxième fois et je me dis oui, c'est vrai que le scénario est très très bien.
Je le regarde cette semaine, quoi. Et je te fais un retour, mais vraiment je pense que je le regarde cette semaine, avant les Oscars.
Ouais. Avant les Oscars. On va passer aux nominations pour le meilleur scénario adapté, l'adaptation.
D'accord, très bien.
Alors, American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pauvre Créature et La Zone d'Intérêt.
Bah, j'ai tout vu sauf le premier. Tu l'as vu, American Fiction?
Non, je ne l'ai pas vu.
Bah, écoute, les autres, je pense qu'on a déjà un peu tout dit. Barbie, Oppenheimer, je fais partie des rares qui n'a pas été transcendé par le phénomène. Barbie, c'est un film... féministe, mais qui traite le féminisme avec beaucoup de légèreté, de raccourcis.
Je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein de messages cachés et tout. En fait, les filles, on l'a pas vu de la même manière. Ouais, c'est vrai, hein, quand on parle garçon-fille.
C'est vrai, mais.
Il y a double lecture et moi, j'ai senti un côté plus profond, un côté martèlement du patriarcat à des endroits. Et vraiment, le fait que. Et ben voilà, on rêve un monde, on idéalise un monde de Barbie, et puis à un moment donné, on voit un peu ce noir obscurcir. Alors c'est vrai que beaucoup ont dit que celui qui est dans la tour là, ceux qui sont à Mattel, ils auraient dû être beaucoup plus
terre à terre, plus réel. Voilà. Pour moi, dès que tu commences à faire de la pitrerie et du lourdingue, enfin, ça n'existe pas. Et le problème, c'est que j'ai trouvé que le message était plus fort que le film. Donc au final, c'est ce qui ça m'a moins marqué. Et dans le genre féministe, avant, je l'ai déjà dit, il y a eu Promising Young Woman, il y a eu Men, il y a eu She Said, ce sont des films incroyables. Et là, cette année, on en a parlé, La Couleur Pourpre, c'est un film féministe magnifique. Et voilà.
Voilà, on est d'accord sur La Couleur Pourpre.
Cette synchro a été faite sans montage.
Je pense que l'année prochaine, s'il n'y a pas La Couleur Pourpre...
Non, on pète un plomb,
on casse tout.
Anecdote très triste, mais La Couleur Pourpre est un immense échec. Pour Warner, pour Spielberg, ils ont perdu beaucoup d'argent, le film ne marche pas du tout. Mais allez le voir, il est encore au cinéma.
Mais ouais, allez le voir, quoi. c'est magnifique. À chaque fois que, de manière, on le conseille à quelqu'un, on nous dit oui, c'est génial.
C'est vrai, tout est beau. Écoutez l'émission précédente, on en a parlé en long, en large et en travers. Donc Barbie, Oppenheimer. Et pour ce qui est d'Oppenheimer, là, c'est très personnel. C'est que j'adore Christopher Nolan, mais le sujet ne m'a pas passionné. C'était pas mon sujet de prédilection. Et il y a certains films où c'est un sujet qui ne me concerne pas et qui arrive à me saisir. Ben, Oppenheimer, je suis passé à côté. Et je sais que la grande majorité des gens, dont toi, Vanessa,
j'ai adoré Oppenheimer. C'était vraiment très fort. J'ai vu des choses que je ne connaissais pas. Je trouve que tous les personnages, même les tout petits rôles, sont hyper importants. Et puis joués par des grands, quoi.
Bien sûr.
C'est les petits plats, le petit plat dans les grands. J'adore ça. Et je trouve que l'histoire est très bien amenée. Je trouve que petit à petit, voilà, on emmène vers ce sombre, vers ce côté de la bombe atomique.
Bien sûr.
Et ce village aussi qui a été créé avec des gens qui sont venus, des chercheurs, leurs familles. Enfin, moi, je trouve ça excellent. Très fort.
Moi, ce qui m'avait aussi perturbé, c'est que le film est quand même porté comme acteur principal, Cillian Murphy. J'ai toujours trouvé très mono-expressif, en fait. Quand je le regardais au cinéma, je me suis dit, mince, ils ont mis l'écran en pause.
Et puis après, il y a des très très bons seconds rôles qui habitent le film, quoi.
Robert Downey Jr. est extraordinaire. Il y a Rami Malek. Il y a un casting extraordinaire. Florence Pugh, qui joue l'épouse ou la compagne. Pour être objectivement, je trouve qu'Oppenheimer est un meilleur film, qualitativement parlant, que Barbie. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Pauvre créature.
Si vous entendez du bruit dans le, dans le micro, c'est notre cher Léo
qui tousse.
Qui tousse. Bonjour Léo, bonjour.
Coucou, coucou. Voilà. Tout va bien, tout va bien.
Pauvre créature et la zone d'intérêt.
Alors, zone d'intérêt, on en a déjà fait. On a déjà fait tous les éloges. Pauvre créature aussi également, mais pauvre créature, on peut revenir dessus. C'est quand même un film qui a tout. Son esthétisme, son histoire, son personnage principal, son interprétation, sa bande originale. Je veux dire, j'ai l'impression que tout est bon dans Pauvre créature.
Ouais, et puis l'adaptation est vraiment très très bonne. Ouais. Par rapport au livre, franchement, il y a vraiment un boulot qui a été fait sur le scénario.
Il y a un scénario qui est déjà assez complexe. Chapeau, hein, quand même, faut l'adapter ce truc-là.
C'est pas évident, c'est un pari risqué que, pour moi, ils ont carrément réussi.
Ah bah écoute, moi je pense, là on a fait tous les films de cette catégorie,
oui.
Mon coup de cœur irait vers Pauvre créature, et c'est fort possible qu'il gagne l'Oscar, mais je pense que, pareil, avec tout le bruit qu'il a fait, Oppenheimer risque de tout exploser sans faire de mauvais jeu de mots. Donc,
Je verrais bien aussi la zone d'intérêt. Parce que je trouve que l'adaptation est vraiment très belle aussi.
Ouais.
Il y a des petits trucs qui sortent de l'ordinaire parce que bah, ils peuvent pas tout mettre. Et c'était un peu compliqué. Il a enlevé des choses justement pour éviter ce côté de voir. Il a remplacé par le son. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc pour moi, mon coup de cœur va à la zone d'intérêt, même si je sais que Oppenheimer risque de remporter.
Et Barbie aussi, pour des raisons politiques,
peut
aussi gagner. Donc en fait, c'est très difficile. Cette catégorie, j'ai l'impression que tout le monde a autant sa chance.
Ouais, mais l'adaptation de Barbie, tu vois, Barbie, c'est un monde un peu édulcoré, machin, tout
ça.
Alors on le voit dedans. Mais c'est vrai que Barbie en lui-même n'est pas montré de ce côté-là. Donc si tu veux, c'est vraiment une libre adaptation. Donc je ne mettrai pas sur, sur le scénario d'adaptation.
Mais par contre, en plus, vraie question, c'est l'adaptation de quoi, Barbie?
Bah de Barbie, du monde de Barbie, des films, des livres de Barbie. Il y a des livres de Barbie de la collection Rose, t'as jamais, vu.
Bah, pourquoi pas, mais non, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'Oppenheimer s'est quand même appuyé sur la biographie du monsieur.
Oui.
Ouais, la zone d'intérêt s'est appuyé sur des faits historiques. Je veux dire, il y a quand même des choses. C'est vrai que Barbie,
oui, il y a un livre de la zone d'intérêt.
Donc on part quand même de... On part quand même sur un matériel solide, alors que Barbie, ça reste quand même assez diffus. C'est une histoire originale qui a été créée pour le film, appuyée sur un univers existant. Donc c'est vrai que Barbie, celui qui a le moins sa place dans cette catégorie, je pense.
Bon, mais je crois qu'on est d'accord.
Ouais.
Alors, nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. Attention, oh là là, les prononciations. Sterling K. Brown pour American Fiction. Robert De Niro dans Killer of the Flower Moon, Robert Downey Jr. dans Oppenheimer, Ryan Gosling dans Barbie, Mark Ruffalo dans Pauvre créature.
Je pense qu'on va être d'accord, Mark Ruffalo, il est à mourir de rire dans Pauvre
créature. Excellent dans Pauvre créature.
Mari possessive, jaloux, complètement.
Non, brisé aussi.
Oui, brisé, bien sûr.
Oh là là.
Alors,
on voit tout en fait. On voit le côté très possessif, très négatif.
Malsain, il est malsain. Il est
narcissique.
Et film féministe, là aussi, Pauvre créature, l'appropriation du corps féminin, tout ça, je trouve encore plus brillant.
La quête de
l'identité. Ah non, j'ai trop envie de le revoir, ce film, j'ai adoré. Et
moi, je l'ai vu trois fois déjà.
Ah oui.
J'avais besoin d'une deuxième lecture, et puis après, une amie m'a dit j'aimerais bien aller le voir. Ah bah ok, on va le revoir.
Ah bah, moi, je le verrai bien en VF pour voir.
C'est ce que j'ai fait.
C'est ce que t'as fait. C'est bien en VF ou pas du coup?
Ouais, franchement, il est vraiment bien. Très beau doublage.
Elisabeth Ventura qui fait Emma Stone à chaque fois.
Ça va parfaitement.
Ça lui va parfaitement.
Ah, puis la voix de Mark Ruffalo aussi, elle vaut le détour.
Ah bah trop bien. Bah, écoute, je le regarderai en VF à la maison quand il sortira en Blu-ray.
Et William Dafoe aussi, j'ai oublié.
Et ouais, William Dafoe, bien sûr.
Bah oui. Attention.
Notre bouffon vert à nous.
La voix caverneuse.
C'est complètement ça. Je trouve que c'est le Mark Ruffalo, pour moi, c'est le coup de cœur, mais connaissant un peu les Oscars, je pense que Robert Downey Jr., ça peut être quand même un potentiel.
Oh, il est bon quand même.
Non, mais il est excellent.
Attends, il est excellent dans Oppenheimer.
Ah bah c'est mon personnage préféré dans Oppenheimer. C'est le personnage que j'ai.
Il est incroyable.
C'était le meilleur. Donc je pense sincèrement que lui peut avoir l'Oscar. Robert De Niro.
Moi,
est
j'ai
très
un peu
bon.
Peur pour Robert De Niro, hein, parce que Robert De Niro, il est vraiment très bon dans.
En salaud dans Killer of the
Flower Moon. Il est horrible.
Il est horrible dedans, mais.
Manipulateur à souhait. Mais après.
Mais après, c'est du De Niro. Voilà. Genre, on l'a déjà vu faire ça.
C'est ça.
Tu vois. Et alors que Robert Downey Jr.
Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu faire ça.
Et ben Robert Downey Jr., surtout que c'est très en nuance parce qu'il s'est grimé, il s'est vieilli, il a minci. Genre vraiment, il s'est transformé en personnage. Donc il y a vraiment un vrai travail de composition. Donc c'est vrai qu'il mériterait. Mais mon petit coup de cœur, quand même, c'est Mark Ruffalo. Il me fait beaucoup trop rire. Donc si Mark Ruffalo gagne, je suis très content. Et si Robert Downey Jr. gagne, c'est quand même mérité. Je serai content tout aussi. Voilà.
Alors je vais faire l'inverse. Moi, ce serait Robert Downey Jr. qui l'aurait parce que j'ai trouvé vraiment sa prestation époustouflante. Ouais, ouais. Et je ne serais pas déçu si Mark Ruffalo l'avait
aussi. C'est exactement ce que j'ai dit.
Non, je fais l'inverse. Parce que toi, ton préféré, c'est plus l'autre, mais tu penses que c'est...
Mon préféré, c'est Mark Ruffalo. Ah, et je pense que c'est Robert Downey Jr. qui va gagner.
Moi, c'est l'inverse. Mon préféré, c'est Robert Downey Jr. et je serais heureuse si Mark Ruffalo...
Ah d'accord, ok, d'accord. Ouh là là.
Rien ne va plus au studio.
Rien ne va plus. C'est la fatigue, il y a trop de noms.
Non, mais c'est pas grave. On continue.
Catégorie suivante.
Bah, la meilleure actrice dans un second rôle. On reste, Emily Blunt dans Oppenheimer.
Ouais.
Danielle Brooks dans La couleur pourpre.
Ouais.
America Ferrera, je ne vais pas y arriver, dans Barbie. Jodie Foster dans Insubmersible. Et Divine John Joy Randolph dans Winter Break.
Bon, on est d'accord.
Ah, bah oui.
Bah oui.
Si tu penses à ce que je pense et à sa prestation qui est incroyable,
bah oui.
Après avoir fait le spectacle pendant 8 ans et reprendre son rôle au cinéma.
Oui.
Danielle Brooks.
Totalement, pour La couleur pourpre. Mais moi, je pense que c'est elle qui mérite.
À 100%.
Mais encore une fois, je pense que les Oscars, ils sont capables de le donner à Florence Pugh pour Oppenheimer parce que c'est Oppenheimer.
Non, c'est pas Florence Pugh.
Emily Blunt, pardon.
C'est Emily Blunt.
Emily Blunt, ouais.
C'est pas grave. Mais oui, en effet.
Mais donc voilà, c'est bien, c'était bien. Florence Pugh, elle est bien dans Oppenheimer.
Oui, mais c'est Emily Blunt qui est nominée, préposée second rôle.
Ouais, je pense que ça va jouer sur ça, mais pour moi,
parce que
oui.
Emily Blunt, c'est l'épouse. Et Florence Pugh, c'est la maîtresse.
C'est la maîtresse, oui. Voilà, je me suis un peu perdu. Mais c'est parce qu'elles sont blondes toutes les deux, je me suis mélangé.
Mais pas
ça.
De soucis, je suis là pour te remettre.
Merci bien. Non, mais La couleur pourpre, oui, complètement. Complètement. Elle est drôle, elle est extraordinaire, ça chante. Enfin, je veux dire, c'est quand même... C'est même pas une question de second rôle, c'est que j'ai l'impression que tous les rôles féminins dans ce film sont travaillés, incroyables.
Sont forts, non, très, très,
très
forts.
Donc il faut... Moi, honnêtement, je donnerais toutes les récompenses à ce film que j'ai. Je pense qu'on l'a compris. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'Oppenheimer, il a l'air d'être quand même sur la sellette des gagnants. Donc,
En fait, c'est pas l'année prochaine qui sera. C'est donc cette année La couleur pourpre.
Et ouais, c'est foutu. Je pense.
Ouais, ouais.
Et ouais, parce qu'il est sorti l'année dernière au cinéma.
Ah oui, mais chez nous, oui.
Et ouais, chez nous, il arrive après. Adieu.
Non, mais si, regarde, tu vois, meilleure actrice dans un second rôle, c'est parfait.
Bah, on y croit. Écoute, on sera là devant la télé.
Moi, j'y crois. Hein.
Ah bah, écoute, croyons-y.
Si elle l'a pas, scandale.
Bah,
ouais. Bon, après, Divine Joy Randolph dans Winter Break est très bien aussi.
Elle est très bien aussi, mais elle a ce truc en moins, forcément, que dans La couleur pourpre, où ça chante, il y a tout derrière, quoi.
Donc, non, puis le rôle. Ce rôle, il est horrible, quoi. De Danielle Brooks. Enfin, la pauvre, elle s'en prend plein la tête. Et puis, elle est d'une joie, d'une férocité, jusqu'à se faire briser et renaître.
Bien sûr.
Je trouve ça excellent.
Et quand elle se fait briser, son jeu, il change complètement. Oh, elle s'est éteinte. Et
son regard, ses yeux, sa façon d'être, sa démarche.
Ouais, sa posture n'est plus la même. Et tout.
C'est fort. Très, très fort.
Allez voir La couleur pourpre au cinéma. Voilà.
Voilà.
La propagande, elle est là.
Ça fait deux films. Hein. Excuse-nous, Léo, entre Green Border pour moi et La couleur pourpre.
Je remarque qu'il y a deux gros favoris dans l'équipe. Là, c'est bon, au moins on sait quoi aller regarder.
Je me permets de parenthèse, cher Léo, quel est votre film préféré des Oscars pour l'instant?
Je
prends de court. Hein.
J'en ai pas vu assez pour pouvoir me prononcer en vérité. Je suis à travers Vanessa, ce qui sort. Je sais tout ce qui sort. Etc. Mais je n'ai malheureusement pas assez vu.
Il veut garder le poste.
Allez, nomination pour le meilleur acteur. Bradley Cooper dans Maestro. Colman Domingo dans Rustine. Paul Giamatti dans Winter Break. Cillian Murphy dans Oppenheimer. Et Jeffrey Wright dans American Fiction.
Bah, moi, c'est l'acteur de Winter Break qui,
bah
qui mériterait, mais c'est Cillian Murphy qui va gagner. Je le sens gros comme une maison, oui. que c'est Oppenheimer qui va tout rafler et Anatomy d'une chute qui va réussir son coup. Mais oui, mais après, c'est l'inverse, c'est que je trouve que le... Comment il s'appelle Paul, pardon,
Paul Giamatti.
Ouais, Paul Giamatti, je trouve qu'il est extraordinaire dans Winter Break, mais il offre quand même une performance qui est toujours la sienne malgré tout, parce que cet handicap, il le porte sur lui, c'est lui dans ses autres films. Alors que Cillian Murphy, quand même si c'est pas un film que je porte dans mon cœur, malgré tout, il porte 3 heures de long métrage sur son dos.
Très,
quoi,
très fort.
Donc il le mérite, je pense, un peu plus, mais mon coup de cœur va quand même pour cet acteur de Winter Break. Quoi.
Mais c'est vrai que mon coup de cœur aussi va pour Paul Giamatti, mais quand je vois le film de 3h07 et que je vois la performance de Cillian Murphy, je ne peux que lui donner l'Oscar. Quoi.
Oui, non, mais ça serait mérité. Je ne tirerai pas la bouille aussi.
Ça va, tu diras rien.
Je dirai
rien. Nomination pour la meilleure actrice. Annette Bening dans Insubmersible. Lily Gladstone dans Killer of the Flower Moon. Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Carrie Mulligan dans Maestro et Emma Stone dans Pauvre créature.
Alors, je pense que ça va vraiment batailler entre Emma Stone et Lily Gladstone. Parce que Lily Gladstone, nette de rien dans Killers of the Flower Moon, je trouve que c'est la meilleure du trio. Je la trouve meilleure que De Niro et DiCaprio.
Elle est excellente.
Elle est excellente. Et en plus, elle a déjà remporté énormément de prix depuis son voyage de Killers of the Flower Moon. Donc,
oui,
en fait, je
tout
pense
à fait. Bah, elle a déjà gagné le prix de meilleure actrice au Golden Globe.
Ah, voilà, c'est ça, c'est le Golden Globe. Mais je pense que... c'est bien parti pour elle, à mon avis. Hein. Mais Emma Stone,
enfin moi j'ai un coup de cœur pour Emma Stone dans Pauvre créature, quoi.
Mais moi c'est ça, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur.
Je la vois très très bien remporter, et il pourrait y avoir une surprise avec Sandra Hüller, parce que Sandra Hüller, quand même, dans Anatomie d'une chute, est assez forte, a plu aux Américains. Donc bah oui.
Ça peut jouer.
Ça peut se jouer entre ces trois là. J'ai l'impression.
J'ai trouvé Carey Mulligan plus convaincante que Bradley Cooper dans Maestro. Donc mais pour moi, je pense sincèrement que en fait Emma Stone tient peut-être son meilleur rôle dans sa carrière avec Pauvre créature, là où elle tire, enfin, cette tête d'enfant un peu étrange avec ses yeux qui partent dans tous les sens, sa bouche et tout, elle le joue, mais de A à Z, elle n'a jamais le personnage, c'est extraordinaire à voir. Mais ah, Lily Gladstone, 3 heures et quelques de film, l'émotion, toute l'histoire politique sur cette vie-là qui a été aussi la sienne à l'actrice. Enfin, je veux dire, il y a trop d'éléments.
Non, puis elle le vit vraiment, Gladstone. Donc, ouais, je sais pas.
La frontière est mince entre la réalité et la fiction. Donc
très très compliqué. Hein. Annette Bening dans Insubmersible est très forte aussi.
J'ai pas vu Insubmersible, mais Annette Bening fait partie de mes actrices
émouvante,
préférées. Donc,
enfin, la dose d'espoir qu'elle apporte à son personnage, quand elle vit le drame et tout, enfin, c'est très très fort, quoi. Franchement, là j'ai beaucoup de mal. Il y a que Maestro que j'ai pas vu, donc ça va. Mais oui, c'est vrai que Allez, si faut en choisir une, je prendrais Emma Stone, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, et elle m'a vraiment prise dans ce film où elle porte vraiment tout le film de Pauvre créature. Après, je suis d'accord avec Lily Gladstone, qui est incroyable et qui est la plus forte du trio Killer of the Flower Moon. Donc voilà.
On est d'accord.
Je le donnerai à Emma Stone, mais je serais pas déçue si Lily Gladstone là aussi.
J'ai rien de plus à dire.
Voilà.
Catégorie suivante.
Nomination pour la meilleure réalisation. Et Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Martin Scorsese pour Killer of the Flower Moon. Christopher Nolan pour Oppenheimer. Oh là là. Yorgos Lanthimos pour Pauvre créature. Et Jonathan Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt.
Très compliqué.
J'ai beaucoup de mal.
Parce que je trouve que Oppenheimer est un film brillant en termes de réalisation. Entre les flashbacks, excellent. Le travail du son, tout ça, je trouve qu'Oppenheimer, c'est un chef-d'œuvre en termes de réal. Comment ça s'appelle, la zone d'intérêt, c'est un inédit, je trouve.
C'est très original.
C'est très original.
Tout à fait, ouais.
Pauvre créature, c'est sublime.
C'est risqué aussi, la zone d'intérêt.
C'est risqué, pauvre créature, c'est sublime. Le noir et blanc, le format d'image qui change, le fisheye.
Le fisheye, il est incroyable. J'aime beaucoup ce fait où on est voyeur, quoi.
Écoute, là, je... Bon,
beaucoup de mal. Hein.
Beaucoup de mal, mais en fait, n'importe qui gagne, ok, c'est mérité. Après, je n'ai pas encore vu Anatomie d'une chute, mais j'ai l'impression, au vu de l'abondance, que c'est très académique, quoi. C'est du découpage.
Non, mais je veux dire que les cinq sont très, très forts et je pense que c'est très, très compliqué d'en sortir un. Si vraiment, vraiment, il faut en choisir un, c'est vraiment parce que le film m'a pris et que j'ai pas vu passer le temps. Je dirais Christopher Nolan pour Oppenheimer.
Ouais, et ça se mérite quand même. Donc, ouais,
ça se mérite complètement. Même si j'ai un...
Pauvre créature, je sais bien, moi aussi.
Pauvre créature, mais c'est compliqué.
On se répète énormément dans cette émission.
Ah, parce c'est même... très, très, très compliqué. On arrive au dernier.
Allez, c'est pas si vite hein, quand même.
Ouais, bon, y a quelques trucs qu'on n'a pas fait quand même. Hein,
bien sûr, faut
parce
le dire.
Y a des choses, c'est un peu compliqué. Mais... et puis, je pense qu'on épiloguerait trop sur
bien
pas,
sûr.
Pas mal
mais
de
je suis quand même assez fier de nous, ma chère Vanessa, je tiens à le souligner, parce qu'on a été quand même assez efficace pour enchaîner les sujets.
Alors, nomination pour le meilleur film. Et je vais encore mourir.
Allez.
American Fiction, Anatomie d'une chute, Barbie, Winter Break, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Life... Pauvre créature, et la zone d'intérêt. Eh bien, il y en a. Je pensais pas qu'il y en avait autant.
Eh bien, il y en a. Je pense honnêtement que ça serait extraordinaire que Anatomie d'une chute gagne.
Ouais.
Parce que ça serait aussi une façon de montrer que le cinéma hollywoodien n'est pas que vainqueur dans cette histoire, qu'il n'y a pas que des gros mastodontes comme Christopher Nolan qui arrive avec son film de 3 heures, mais qu'il y a possiblement une jeune femme, Justine Triet, qui débarque comme ça et qui rafle tout. Donc ça serait quand même extraordinaire et chouette pour nous les Français.
Ouais, puis avec un sacré casting et tout, ouais. Franchement... meilleur film, moi ça m'étonnerait pas du tout parce qu'il y a vraiment des personnages très forts. Et j'ai parlé de Swan Arlo, qui est l'avocat de Sandra Hüller, la préposée, la coupable, innocente, on ne sait pas. Et puis le jeune garçon qui est aussi très fort, qui était au César, révélation masculine. Donc franchement, oui, mon cœur cocorico irait pour Anatomie d'une chute. Et moi, j'ai vu le film, donc oui, je trouve que c'est très très bien fait. Maintenant, c'est super dur parce que j'ai adoré Pauvre créature aussi. J'ai été scotchée par la zone d'intérêt. J'ai été prise et j'ai été emmenée dans l'histoire d'Oppenheimer. J'ai passé un excellent moment avec Winter Break. J'ai vu et revu Barbie avec ses messages très forts et cachés. Ça va être compliqué. Il y en a que deux, tu vois, American Fiction et Maestro que je n'ai pas vu. Past Life aussi, excellent. Et toi, si tu en enlèves un?
C'est très compliqué. Je pense pas que je vais pouvoir y arriver parce que je trouve qu'il mérite vraiment tous leur place. Oppenheimer, c'est quand même le pouvoir d'un réalisateur qui arrive à amener un sujet méconnu de tous et à fédérer du monde autour d'un sujet que personne ne connaissait et à passionner quand même les foules. Barbie, c'est la possibilité de prendre les jouets d'une enfant et d'en faire un sujet féministe et engagé pour essayer de toucher le maximum de personnes.
Sans oublier les garçons.
Sans oublier les garçons. Winter Break, c'est un film qui te rappelle aussi qu'on peut faire des histoires simples, des relations simples, comme on en faisait à l'époque et qu'on n'en fait plus. Donc, c'est aussi faire un rappel que le cinéma d'avant n'est pas totalement mort et qu'il existe encore des films comme ça. La zone d'intérêt, c'est offrir encore ce puissant fond qu'est la Seconde Guerre mondiale, prendre une histoire et essayer de montrer autre chose, un autre angle, sachant qu'on a tellement exploré le sujet dans plein d'adaptations. Là, c'est la possibilité aussi de faire quelque chose de différent, de nouveau et d'inédit, et peut-être de faire découvrir l'envers du décor de cette histoire sordide. Je trouve que, de manière générale, en fait, tous les films qui sont nominés cette année aux Oscars sont, méritent leur place, quoi. Méritent leur place. Donc, ouais, qu'importe qui sera le grand gagnant.
Past Life aussi, hein, qui est une histoire d'amour très forte et très poignante sur 30 ans.
Bien sûr.
Et avec des interprétations incroyables aussi des trois personnages principaux, on va dire. Et cette force de l'espoir, de l'amour et de l'amitié qui est vraiment mis par Céline Song. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ce film. Donc, d'en sortir un, c'est très compliqué, même si mon cœur va, je l'ai dit, hein, cocorico vers Anatomie d'une chute. Je trouverais ça hallucinant qu'il gagne. Et je serais très contente qu'il y ait un pied de nez de dire que le cinéma français peut être au-dessus de tout.
Eh bien, on lui souhaite, et je pense que ça sera les mots de la fin. Et ainsi s'achève l'émission spéciale sur la 96e cérémonie des Oscars, cérémonie qui aura lieu au Théâtre Dolby de Los Angeles en Californie, présentée par Jimmy Kimmel. Quant à nous, on le découvrira sur Canal+, comme d'habitude, dans la nuit de dimanche à lundi.
À minuit 3h, c'est ça ?
Minuit 3h, bref, pour les couche-tard ou les lève-tôt, qu'importe. On sera là pour savoir qui sera le grand vainqueur, si Anatomie d'une chute va tout gagner, si Pauvre créature va tout gagner, si peut-être même La couleur pourpre va avoir son prix. Bref,
ce serait bien.
On sera là, on sera là avec Vanessa. Merci Vanessa de m'avoir accompagné.
Je t'en prie.
Et merci de nous avoir lu tous ces noms très difficiles à prononcer. Voilà, n'hésitez pas, vous, chers auditeurs, chères auditrices, à nous dire quel est votre coup de cœur pour cette 96e cérémonie des Oscars. On vous lit et on vous dit à la prochaine.